Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas enregistré un épisode du podcast, étant donné que c'est la saison morte, mais là, il y a plusieurs choses au sein de l'actualité de la NFL, étant donné que le 15 mars dernier, bien, c'était le début du marché des joueurs autonomes. Il y a eu plusieurs transactions, il y a des carrières qui ont changé d'adresse. Alors, on va en discuter aujourd'hui. Je vais avoir l'occasion de faire tout ça en compagnie de mon collègue Renaud Bourbonnais. Et ensuite de ça, bien, Marc-André Chaloux, ce ne sera pas un épisode complet là, du podcast. Si Marc-André venait pas nous parler de fantasy football, il va parler de l'impact justement de cette transaction-là au niveau du fantasy football. Alors, cette édition spéciale du podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Hey Renaud, salut. Écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas déjà entendu à la radio, si tu peux nous dire un peu justement là, qu'est-ce que tu fais, parce que tu es un homme quand même très occupé au niveau des médias.
Ouais, exact. Donc, surtout en football, c'est pour ça qu'on a fait connaissance depuis quoi, 2-3 ans maintenant sur les lignes de côté au
entraînement
des Alouettes.
Oh, bon, ouais, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, ouais, c'est ça exactement, là, quand tu travaillais en Outaouais.
Exact.
Ça fait quand même quoi, peut-être 6-7 ans?
Ouais, exact. Ouais. C'était la Coupe Grey à Ottawa, les gens pourront regarder là, les Argonauts qui avaient gagné contre les Stampeders. Donc, ça remonte à ce temps-là. Maintenant, je travaille à RDS comme statisticien. On a fait NFL Red Zone ensemble une fois. Je l'ai fait quelques autres fois avec Jean-Philippe Bolduc qui est aussi venu à ton podcast. Sinon, à BPM Sport, ben, la couverture des Alouettes. Pendant un bout de temps, j'animais aussi une émission hebdomadaire sur le football. Ça, c'est dans le passé maintenant, mais je continue à faire des chroniques football. Donc, Alouette, NFL, tout ce qui touche football là, qui se passe à BPM Sport. En plus de venir donner un coup de main à RDS pour plusieurs sports.
Ah ben d'entendre le dire, on sera sur les lignes de côté, assis dans les estrades, en train de regarder les entraînements des Alouettes, qui est un entraînement qui va commencer dans moins de 2 mois. Il y a un nouveau propriétaire, donc il y a beaucoup d'engouement entourant l'organisation montréalaise. Mais on va avoir le temps de parler des Alouettes au printemps, au cours de l'été. On va se concentrer sur la NFL, comme je le disais tout à l'heure. Il y a plusieurs transactions là, depuis la fin depuis le Super Bowl, depuis le début du marché des joueurs autonomes. On va commencer par une transaction qui a eu lieu il y a quelques semaines, alors que les Bears de Chicago, qui détenaient le tout premier choix du repêchage, ils ont complété une transaction avec les Panthers de la Caroline. Alors, les Panthers, ce sont eux maintenant qui vont sélectionner au premier rang du repêchage. Les Bears ont pu mettre la main sur des choix au repêchage et également receveur numéro 1, Andy J. Moore. Je te donne une page blanche. Qu'est-ce que tu as pensé de cette transaction entre Chicago et la Caroline?
Ben, si on regarde du côté de Chicago, je pense qu'on pouvait un peu voir ça venir d'un peu plus loin. Dès qu'on a vu que les Bears allaient avoir le tout premier choix au repêchage, je pense qu'un peu tout le monde s'est dit, ils ont déjà Justin Fields comme corps arrière d'avenir qui est tout jeune là-bas. Ils ont l'occasion de renflouer les coffres parce qu'on a vidé nos coffres de choix par les années passées, justement pour aller chercher un Justin Fields ou dans d'autres transactions. Mais là, Ryan Poles s'est dit, c'est le temps de jouer au rôle inverse, d'aller chercher un choix de première ronde supplémentaire, d'aller chercher aussi le 9e choix au total cette année qui appartenait aux Panthers. Il y a des choix supplémentaires et DJ Moore qui finalement donne un groupe de receveurs potable aux Bears, qui n'a pas eu depuis extrêmement longtemps à Chicago. Bon, c'est sûr que les prestations de Chase Claypool l'an dernier n'ont pas nécessairement été impressionnantes quand il est arrivé à Chicago. Ça reste un receveur de grand talent qui va encore être là pour la prochaine saison. Tu ajoutes à ça DJ Moore, il y a Darnell Mooney qui était déjà là. Je ne dis pas que c'est un groupe de receveurs élite qu'on a présentement à Chicago, mais quand même, on a donné une chance à notre carrière, Justin Fields, de faire des jeux pour l'an prochain, ce qui n'était pas toujours le cas l'an dernier. Tu te souviens, il y a beaucoup de matchs que tu as fait des Bears à NFL Red Zone où, en troisième essai, peu importe si c'était 3, si c'était 4, si c'était 8, ben, on courait avec Justin Fields parce que c'était notre meilleure option d'aller chercher les premiers jeux. Je pense qu'on a fait une bonne transaction dans l'ensemble. De toute façon, qu'est-ce qu'on allait faire avec ce premier choix au total-là? On n'allait pas repêcher un carrière. On allait sûrement prendre un joueur qui oui, est talentueux, mais on aurait pu obtenir plus en reculant ce qu'on a fait finalement. On va chercher des choix supplémentaires, puis on va avoir un joueur talentueux qu'on va pouvoir ajouter à notre équipe avec le 9e choix total.
Ouais, comme tu as dit, c'était la chose à faire du côté des Bears de Chicago. Mais si je suis les Texans de Houston, souviens-toi, là, lors de la 18e et dernière semaine du calendrier régulier, Les Texans, avant le début des rencontres, c'était eux qui détenaient le tout premier choix du repêchage. Ils ont gagné, ils ont vaincu les Colts d'Indianapolis. Puis c'est ça qui a fait en sorte que les Bears se sont retrouvés avec le tout premier choix. C'est les Texans. Tu dois regretter d'avoir gagné ce match-up parce que c'est Houston qui aurait pu soit repêcher un carrière avec le tout premier choix ou compléter cette transaction-là et renflouer les coffres en termes de choix au repêchage. Du côté des Panthers, on est désespéré pour trouver un carrière partant. Hein. Depuis que David Tepper a acheté l'équipe, l'année dernière, bon, on a roulé les dés avec Baker Mayfield, Sam Darnold, ça n'a vraiment pas fonctionné. Là, j'ai hâte de voir qui on va sélectionner là, au tout premier choix. Est-ce que ça va être le carrière d'Alabama, Bryce Young, ou le carrière d'Ohio State, C.J. Stroud? Bon, il y a du monde qui parle de Will Levis, le carrière de Kentucky, mais selon moi, il ne devrait pas être dans l'équation. Il n'est pas du même calibre. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, Bryce Young, il est très talentueux. Tu sais, il a tous les atouts que tu recherches chez un carrière ou à peu près, mis à part son cabaret. Pas très gros, quoi. Il a pesé à quoi? 195 livres au combine, au camp d'évaluation de la NFL. Donc, il n'est vraiment pas gros physiquement. Là. Tu ne vois pas des carrières avec une si petite stature. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que les Panthers vont faire. Ils ont été actifs. Ils ont mis sous contrat Miles Sanders, l'ancien demi à l'attaque. Des Eagles de Philadelphie. C'est fou, Renaud, comment ça change vite dans la NFL. Hein? Début de la saison, Christian McCaffrey était toujours en Caroline. Là, c'est rendu Miles Sanders qui va être le demi à l'attaque numéro un des Panthers.
Ouais, puis c'est un peu inquiétant de voir l'avenir du carrière qu'ils vont sélectionner, peu importe que ce soit Stroud, que ce soit Young, parce que tu regardes l'équipe qu'il va avoir autour de lui, puis ce sera pas Varjeux, comme on dit en Caroline, nécessairement l'an prochain. Le receveur numéro 1 des Panthers au moment où on se parle, c'est Adam Thielen, qui vient de mettre sous contrat, qui est rendu à quoi? 33 ans, Adam Thielen? Ça fait plusieurs années.
Il est rendu au bout du rouleau.
C'est plus un receveur étoile, là. C'est plus du tout un receveur étoile. Donc, sinon, on va miser sur des jeunes receveurs qui sont là, mais c'est pas des grands talents, ou du moins pas des grands talents annoncés. Donc, ça m'inquiète un peu à ce niveau-là. On voulait partir un nouveau cycle, ça, c'est évident, avec un nouvel entraîneur qui débarque là-bas. Mais on était surtout tanné, je pense, de voir, puis tu l'as mentionné tantôt, la répétition. À chaque année, on amenait un vétéran avec un certain potentiel, mais de qui on ne savait pas exactement de quoi s'attendre. L'an dernier, c'était Baker Mayfield. L'année d'avant, Sam Darnold. L'année d'avant, c'était Teddy Bridgewater, rappelle-toi, avec les Panthers de la Caroline. Ben oui. Là, pour une fois, on opte dans une autre direction, celle de la jeunesse, celle de construire autour d'un jeune homme qui va être extrêmement talentueux. Est-ce que ce sera la bonne décision? À voir. On ne pourra pas blâmer les Panthers de ne pas avoir essayé.
Ouais, puis il nous reste des ressources hein, quand même du côté des Panthers. Oui, ils ont donné beaucoup de choix au repêchage, mais ils en avaient en surplus en raison de la transaction qu'a envoyé Christian McCaffrey aux 49ers. Donc oui, ça serait une bonne idée justement soit de trouver des vétérans receveurs de passe ou des jeunes receveurs via leur repêchage. On va se tourner maintenant du côté de Green Bay où la zizanie Aaron Rodgers, là, ça se termine plus depuis la fin de la saison. On se posait la question à savoir ce que Rodgers va être de retour à Green Bay. Bon, là, on sait qu'il ne sera pas de retour. Bon, Aaron Rodgers, il a lui-même dit qu'il souhaitait se joindre aux Jets de New York. Et il est le président des Packers de Green Bay qui, lui, lorsqu'il a rencontré les médias, il a clairement dit « Non, non, on a tourné la page. on va y aller avec Justin Love comme carrière partant. On ne veut plus d'Aaron Rodgers à Green Bay. » Maintenant, quand est-ce que sa transaction va être complétée? On n'en a aucune idée. Je ne sais pas si toi, tu le sais. Si tu le sais, ben ça fait une primeur parce qu'il n'y a personne qui le sait. Mais écoute, Aaron Rodgers avec les Jets, potentiellement, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que les Jets, sur papier, sont une bonne équipe. C'est une formation qui a été tenue en otage par la position de carrière l'année dernière. Ouais. Zach Wilson, bon, ça a été très pénible pour lui. Il a complètement perdu la confiance de ses coéquipiers, de l'organisation. Mais est-ce que tu penses qu'Aaron Rodgers est vraiment la pièce manquante pour les Jets de New York? Parce que Aaron Rodgers, tu sais, je ne sais pas s'il est si intéressé que ça. Comment je dirais, à faire qu'est-ce qu'un joueur de football doit faire, surtout à la position de carrière, afin d'être le meneur d'une équipe. Parce que, tu sais, l'année dernière, bon, il critiquait les receveurs de passe, le jeune groupe de receveurs de passe, mais il n'avait pas participé au minicamp, OK, afin justement de développer de la chimie avec les receveurs de passe. Là, qu'est-ce qu'on a vu? Ça a été très laborieux en début de saison. Bon, par la suite, ça s'est amélioré, il a développé de la chimie avec Christian Watson. Mais là, s'il se joint aux Jets, disons s'il est échangé aujourd'hui ou demain, il faut qu'il se présente au minicamp afin de développer de la chimie avec les receveurs de passe des Jets de New York, surtout là qu'il va se joindre à une nouvelle équipe.
Ben, pour moi, ce serait impératif de le demander chez les Jets, du moins de dire si on fait ton acquisition, il faut que tu te présentes, il faut que tu rencontres. Oui, non seulement que tu crées une chimie avec tes receveurs, mais que tu rencontres tout le monde parce que là, c'est vraiment, tu entres dans une nouvelle maison, une nouvelle cabane avec des nouveaux coéquipiers, des nouveaux entraîneurs. Oui, bon, on connaît bien Nathaniel Hackett, évidemment, qui serait son coordonnateur à l'attaque là-bas, mais ça reste quand même un nouvel environnement de travail, une nouvelle base où aller s'entraîner. Donc, non, je suis pas convaincu que Aaron Rodgers peut se permettre de faire comme l'an dernier, d'ignorer le minicamp. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que les Jets vont devenir une équipe dangereuse avec lui? Pour moi, c'est sûr et certain que s'ils restent en santé, les Jets deviennent extrêmement dangereux. L'an dernier, si ce n'était pas d'un problème de corps arrière, probablement qu'on aurait fait les éliminatoires chez les Jets de New York. Il y a beaucoup de jeunes qui ont énormément impressionné l'an dernier. Et c'est ce qui me convainc un peu aux Jets de dire, faisons-le la transaction, parce que s'il y a une équipe de qui on s'est dit en entrant dans la saison morte, ils ont une faiblesse au poste de corps arrière, mais ils ont les ressources pour aller le chercher. Pourquoi? Parce que l'an dernier, ils ont quatre recrues qui ont fait de l'excellent travail comme joueurs de première année. Évidemment, Garrett Wilson, évidemment, Sauce Gardner. Breece Hall aussi, rappelle-toi, qui s'est blessé en cours de saison, qui faisait du bon boulot. Mais le fait qu'on ait aussi bien repêché en une année fait en sorte qu'on pouvait peut-être se permettre d'aller donner des choix au repêchage. Maintenant, l'autre chose qu'il faut établir, c'est qu'est-ce que va être le prix pour Aaron Rodgers? Parce que si on regarde les
Très bonne
comparatifs
question.
à travers le temps, pour moi, le comparatif avec Matthew Stafford n'est pas nécessairement le bon parce que le prix qui a été inclus dans la transaction qui a envoyé Matthew Stafford aux Rams, ben, elle incluait aussi le fait que les Lions de Détroit prenaient le gros contrat à Jared Goff, ce qui a probablement fait augmenter le prix drastiquement pour les services de Matthew Stafford. Si on regarde les vétérans qui ont été échangés au cours des dernières années, les Carson Wentz, les Matt Ryan, le comparatif n'est pas là parce que leur niveau de jeu n'est clairement pas le même que celui qu'Aaron Rodgers peut atteindre quand il est en pleine forme. Et ce que j'ai fait pour m'amuser, c'est d'aller regarder la transaction Jets-Packers il y a plusieurs années maintenant, qui avait envoyé Brett
Brett
Favre
Favre.
aux Jets.
L'histoire qui
Et
se
c'est
répète,
un,
hein.
exact, un choix de quatrième ronde qui finalement s'était transformé en choix de troisième ronde. C'est tout ce que les Jets avaient payé pour Brett Favre, qui était encore capable de livrer la marchandise, même si ça n'avait pas été la meilleure des saisons à New York. Donc, j'ai beaucoup de difficultés quand j'entends des gens dire ça va coûter deux choix de première ronde pour les services d'Aaron Rodgers à New York.
Non.
Je suis vraiment pas convaincu que le prix soit si élevé. Maintenant, ce sera quelque
C'est en
part entre
plus.
quoi, un choix de deux ou peut-être un choix de un, là.
Ouais, j'ai hâte de voir la compensation si jamais la transaction là, se concrétise, hein, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Mais un autre point pour ajouter à ton argument, l'âge d'Aaron Rodgers, en plus, Renaud, il a 39 ans, Aaron Rodgers. Puis, est-ce qu'il
Exact.
a encore la carrière dominant qu'il a été? Bon, écoute, il n'y a pas si longtemps, c'est quoi? C'est il y a 2 ans qu'il avait été élu joueur par excellence de la NFL. Ça reste à voir, mais à 39 ans, habituellement, ben, les carrières sont sur la pente descendante. Donc, ça, c'est un facteur. Puis, pendant combien de temps il veut jouer aussi? Parce que là, il semble que, bon, là, il est allé dans sa retraite, là, dans le noir, là, supposément, là, dans une pièce fermée, pendant quoi, 4 jours, là, sans électricité, sans rien, je ne sais plus, là. Bon. Puis là, il n'était pas certain s'il voulait même poursuivre sa carrière. Donc, là, tu vas peut-être faire l'acquisition de carrière de 39 ans pour 1 an seulement, qui une carrière qui a un gros salaire. Donc, c'est pas facile. Puis c'est ça, de ce que j'ai lu, qui retarde finalement la transaction. C'est qu'on n'est pas capable, entre les Packers et les Jets, de s'entendre sur la compensation pour tous les facteurs que je viens de dire et tous ceux que tu as énumérés tout à l'heure. Moi, personnellement, je suis tanné d'en entendre parler. Je regarde plus Twitter, je regarde plus le compte d'Adam Schefter pour savoir, OK, est-ce qu'Aaron Rodgers vient d'être échangé? Je l'ai fait, je ne vais pas mentir par quelques jours, mais là, je suis plus capable. OK, donc réveillez-moi quand la transaction sera complétée, puis lorsqu'on saura la transaction, la compensation que les Packers vont recevoir en échange d'Aaron Rodgers. Écoute, on va se tourner maintenant du côté de Baltimore, où là, il y a également une situation. Une situation, comment on pourrait la qualifier, là, cette situation entre Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore. Pour moi, dès que la saison s'est terminée, c'était le dossier numéro un que j'avais hâte de voir de quelle façon il allait se dérouler au cours de la saison morte. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, Lamar? Est-ce qu'il va être échangé? Est-ce qu'il va rester à Baltimore? Parce que il est joueur autonome, mais avec restrictions présentement, là. Les Ravens peuvent égaler toute offre qui va être faite par une autre équipe, si jamais une autre équipe lui fait une offre de contrat.
Exact. Et si une équipe lui fait une offre, ben de un, il faut que Lamar Jackson accepte cette offre-là. Et de deux, il faut que l'équipe paie un prix assez élevé, qui est deux choix de première ronde qui s'en irait à Baltimore. C'est beaucoup. De ce qu'on voit jusqu'à maintenant, il n'y a aucune équipe qui a justement déposé une offre ou qui est agressive. Il y a même des équipes qui se sont indiquées comme étant hors de la course. À Lamar Jackson, je pense aux Panthers, je pense aux Falcons, qui sont des équipes qui l'ont déjà mentionné. Et là, ce qui se
Mais
passe pour
excuse-moi de
Lamar
t'interrompre,
Jackson,
Bruno,
oui.
mais je veux dire, je comprends pas les Panthers. OK, bon, là, ils ont complété la transaction pour aller chercher le premier choix du repêchage. On anticipe qu'on repêche un carrière. Mais les Panthers et les Falcons, ça, tu te souviens-toi, l'année dernière, c'était deux équipes qui étaient dans la course pour Deshaun Watson. OK, ils étaient prêts à tout donner pour Deshaun Watson avec toute l'histoire qu'on connaît. Puis là, pour Lamar Jackson, qui a déjà été un joueur par excellence de la NFL, qui est un meilleur carrière que Deshaun Watson. Je comprends pas pourquoi ils ont pas d'intérêt, surtout les Falcons d'Atlanta, là. Tout ce qu'ils ont, c'est DJ Reader, choix de quoi? De quatrième ronde l'année dernière, troisième ronde. Bon, qui n'a pas démontré grand-chose à la fin du calendrier régulier l'année dernière. Ça, moi, ça me laisse perplexe que surtout ces deux équipes-là, qui étaient prêts à tout pour acquérir Deshaun Watson, même Deshaun Watson s'en allait à Atlanta. C'est les Browns qui ont décidé de garantir son contrat au complet. C'est la raison pour laquelle il a choisi d'aller jouer à Cleveland. Mais, t'as de l'intérêt pour Deshaun Watson, mais pas pour Lamar Jackson. Moi, personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais ça, je comprends pas ça, là, cette logique-là. En fait, ça manque de logique.
Ben, surtout considérant le prix payé dans la transaction pour les Panthers avec les Bears, on a donné deux choix de première ronde dans toute cette histoire-là pour aller chercher le premier choix total et on n'est pas prêt à les donner pour Lamar Jackson. Est-ce qu'on a peur, pardon, du montant garanti? Bon, on cherche, disons, on dit entre 220 et 250 millions de dollars garantis pour Lamar Jackson sur son contrat. Les Panthers qui seraient pas prêts à faire ce commitment, comme on dit en anglais-là, mais ça m'étonne un peu parce que on est prêt à faire quoi alors? On est prêt à gaspiller du temps, de gaspiller de l'argent sur des joueurs, sur des saisons perdantes à long terme. Le mot de l'entraîneur a dû peser lourd aussi là-dedans. Est-ce que Frank Reich n'est pas intéressé à avoir une attaque construite autour de Lamar Jackson? Pour moi, c'est assez inexplicable. Surtout que dans cette division-là, la division sud de la Nationale, on va en parler plus tard avec Derek Carr, mais c'est pas le talent qui sort du lot là, à la position de corps arrière, mis à part Derek Carr.
Non.
Avec les Saints, ce sera Baker Mayfield, comme tu as dit, Desmond Ridder ou Tyler Heinicke avec Atlanta. Ce sera bon le premier choix au total avec les Panthers. Si une de ces deux équipes-là allait chercher Lamar Jackson, elle devenait automatiquement favorite ou du moins avec de très bonnes chances pour participer aux éliminatoires la saison prochaine. Donc non, j'ai de la difficulté à me l'expliquer. Et là, voyant qu'aucune équipe veut faire ce fameux mouvement vers Lamar Jackson-là, ben, j'ai de la misère à comprendre comment est-ce qu'on va réussir à s'entendre. Parce que visiblement, les Ravens ne veulent pas lui donner le gros contrat que lui recherche. Et je ne peux pas nécessairement les blâmer non plus parce qu'à chaque année, Lamar Jackson manque plusieurs matchs parce qu'il est blessé et il n'a jamais réussi à gagner le gros match important qui peut nous amener à un autre niveau en éliminatoire, soit en finale de conférence ou au Super Bowl, justement. Donc, c'est une situation un peu étrange. C'est assez unique aussi comme situation parce qu'il faut dire, c'est qu'on en a vu beaucoup des situations contractuels avec des carrières qui sont difficiles au cours des dernières saisons, mais aucun d'eux avait le style de jeu de Lamar Jackson. Et on n'a jamais vu non plus Lamar Jackson installé dans une attaque avec de grosses cibles pour comme receveur, avec une attaque 100% le bâtie autour de ce qu'on pourrait faire. C'est toujours des équipes qui étaient bâties d'abord sur la défense et sur le jeu au sol, jamais une équipe dans laquelle on avait une attaque diversifiée. Donc, c'est un beau mystère pour moi, là, celui de Lamar Jackson présentement.
Ouais, non, ça, c'est un bon point que tu apportes. Bon, on a congédié l'ancien coordinateur d'attaque, Greg Roman, congédié ou il est parti de lui-même. Bref, il ne sera pas là. Moi, ça fait des années que je critiquais le système en attaque des Ravens de Baltimore, parce que je pense que Lamar est un meilleur passeur que qu'est-ce qu'on a vu. L'autre élément, ben, comme tu l'as dit, là, à la position de receveur de passe, c'est pas comme ça on a été bien nantis, là, du côté des Ravens. Mark Andrews est sa cible favorite, les lits rapprochés. On a le jeune Rashad Bateman qui a raté une partie de la saison l'année dernière en raison d'une blessure, mais il y a même le DG des Ravens, je sais pas si tu avais vu là, lorsqu'il a rencontré les médias au camp d'évaluation au Combine à Indianapolis, qui avait, comme on dit en bon québécois, pitché sous l'autobus son groupe de receveurs. Puis ça, Richard Bateman avait répondu via Twitter, il n'avait pas apprécié ça. Donc, c'est au sein de l'organisation, là, on doit se regarder dans le miroir en termes de dépistage à la position de receveur de passe, ce système qu'on a en attaque aussi. Puis il faut en venir à une entente avec Lamar Jackson, parce que si Lamar n'est pas le carrière des Ravens, ben ça va être qui? sais, c'est ça l'affaire. Ça va être
Ben.
qui? Ça va être. C'est ça. Ça va être Tyler Huntley, je pense pas, là. On l'a vu en remplacement de Lemar l'année dernière, c'est laborieux. Alors, trouver des carrières, c'est pas facile. Quand t'en as un, ben, tu te dois d'en prendre soin, selon moi. Écoute, on va se tourner maintenant du côté de la section Ouest. Ouais, vas-y.
Avant qu'on se tourne, dernière chose sur Lamar Jackson, dit j'ai une équipe qui pourrait sortir comme imprévu, si on veut, pour revenir
Ah
sauver
ouais,
la
vas-y, j'aime
situation de
ça.
Lamar Jackson. Ben, les Commanders de Washington sont possiblement sur le point d'être vendus. En fait, ça fait des jours qu'on nous dit que ça pourrait être imminent que Dan Snyder passe à autre chose. Moi, être un nouveau propriétaire, savoir que mon équipe a des difficultés à la position de corps depuis presque toujours, de pouvoir faire un premier mouvement qui va venir tasser
Un
l'époque
coup
Snyder et
d'éclat.
dire c'est un coup d'éclat qui serait la nouvelle génération des Commanders. J'irai offrir le fameux gros contrat à Lamar Jackson. Je paierai les deux choix de première ronde et je bâtirai autour de ça. C'est sûr que ça vendrait des chandails, ça ramènerait beaucoup d'atmosphère là, et du positif autour de cette organisation-là, qui, on va se le dire, là, ils en ont vraiment besoin.
Ouais, ah, écoute, c'est intéressant, c'est intéressant. On va voir ce que ça va se faire. Il faut que l'équipe soit vendue tout d'abord. Mais oui, ça serait très intéressant parce que du côté de Washington, on avait passé proche de participer aux éliminatoires. On avait été dans la course jusqu'à la fin là, de la saison régulière. Mais jamais Saint-Just joue pour Washington. Alors, ça te donnerait une raison de plus de regarder les matchs là, de Washington avec Lemar au poste de quart. J'aime ça, Renaud. J'aime bien ça. On va voir si ça va se concrétiser, ton souhait ou ta théorie lors des prochaines semaines. Écoute, on va se tourner maintenant du côté des Raiders, où eux vont avoir une nouvelle carrière partant la saison prochaine. Derek Carr, lui, il a quitté. Il est allé à la Nouvelle-Orléans. Tu as fait allusion à ça. On va parler du cas de Carr dans quelques minutes. Mais c'est maintenant Jimmy Garoppolo qui sera le carrière partant des Raiders. Il est réuni avec Josh McDaniels, qui est l'entraîneur-chef, qui était son coordinateur offensif à l'époque avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Moi, Josh McDaniels, j'ai l'impression que c'est l'histoire qui se répète. Il y a une décennie de ça, lorsqu'il avait été entraîneur-chef des Broncos de Denver, souviens-toi, il avait échangé des joueurs vedettes, il avait échangé Jay Cutler aux Bears de Chicago, s'était débarrassé de joueurs établis à Denver, puis ben, l'équipe avait pas gagné, OK? L'équipe avait, de saison en saison, était pire. Là, on a vu que les Raiders avaient participé aux éliminatoires à la suite de la saison 2021. L'année dernière, Josh McDaniels, on s'est pas qualifié pour les éliminatoires. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient mécontents justement de l'atmosphère qu'il y avait au sein de l'organisation depuis l'arrivée de Josh McDaniels. Ça, c'est la même chose qu'il y a une dizaine d'années que les joueurs à Denver disaient lorsque McDaniels était l'entraîneur-chef. C'est l'histoire qui se répète ou bien est-ce que je me trompe là, du côté des Raiders?
Non, pour moi, c'est un solide pas de côté pour les Raiders. Je vois pas en quoi est-ce qu'on est nécessairement une meilleure équipe avec Jimmy Garoppolo qu'on l'était avec Derek Carr. Puis je sais qu'on parle beaucoup de la connexion avec Daniels Garoppolo, mais faut se rappeler, Jimmy Garoppolo a pas joué beaucoup avec les Patriots. Il était coincé derrière Tom Brady. Il a profité du fait où Brady a été suspendu à un certain moment pendant 4 matchs, mais lui-même s'était blessé pendant ces 4 matchs-là, donc on avait dû jouer seulement 2, si je me trompe pas. Par la suite, ça a été des petits moments ici et là, mais on peut pas dire que Jimmy G et Josh McDaniels, c'est comme s'ils avaient fait de grosses flammèches dans la NFL. Et Jimmy G, sur
C'est pas Bill
l'ensemble de sa
Walsh et Joe
carrière,
Montana, là, tu
non,
sais.
non, non. Et Jimmy Garoppolo, sur l'ensemble de sa carrière, on peut pas dire qu'il a fait de grosses flammèches non plus. Puis je sais qu'à chaque fois, on nous ramène eh bien, il a quand même mené les 49ers jusqu'à une participation du Super Bowl et tout. Et c'est vrai, mais il lançait 8 passes par match dans ces parties-là. On l'évitait comme la peste. Et dans les dernières saisons, en éliminatoire, bon, pas l'an dernier parce qu'il était blessé, mais la saison d'avant, rappelle-toi, ben, on avait été éliminé parce que Jimmy G, en fin de match, avait mal géré sa partie. Si je me trompe pas, c'était contre les Cowboys de Dallas. Donc, non, je suis pas nécessairement
Ça a été contre les
impressionné par
Rams,
cette
ouais, ça a été contre
arrivée-là
les Rams, ouais.
contre les Rams. T'as raison, exact. Mais pour moi, c'est un pas de côté. Est-ce qu'on peut participer aux éliminatoires l'an prochain? C'est possible. Ça va être par une place de meilleur deuxième parce qu'on a beaucoup trop de talent dans notre division. Et même là, comme je te dis, ça va se battre avec la dernière place éliminatoire, là. Les Raiders vont se battre avec d'autres équipes, mais c'est pas une équipe qui, on peut dire, a fait un pas vers l'avant, là, durant cette saison, Marc-là.
Non, puis écoute, on n'a même pas parlé de la défense. La défense des Raiders qui était horrible l'année dernière. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'acquisition
Rien.
qui me porte à croire qu'elle va être améliorée. Donc, c'est ça, il n'y a pas juste l'attaque. Puis tu as mentionné, bon, Jimmy G, quand il avait remplacé Tom Brady, il s'était blessé. Puis ça, c'est un peu l'histoire de sa carrière aussi, les blessures à Jimmy Garoppolo. sais, c'est une des raisons pourquoi on a repêché Trey Lance, bon, qui lui-même s'est blessé. Mais l'année dernière, Jimmy G s'est amené à la rescousse lorsque Lance s'est blessé. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est blessé lui-même encore une fois. Et puis là, on a été chanceux que Brock Purdy a très bien joué. Mais est-ce que même Jimmy Garoppolo va être en santé pour les 17 matchs de la saison des Raiders? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Plus souvent qu'autrement, il est blessé, puis tu le sens en vieillissant, c'est pas quelque chose qui va s'améliorer de son côté. Mais bon, il n'y a pas juste eu l'arrivée de Jimmy Garoppolo qui nous a laissé, bon, je ne veux pas dire perplexe, c'est quelque chose qu'on voyait venir, surtout avec le départ de Derek Carr. Mais là, on s'est départi de Darren Waller, l'ailier rapproché étoile, s'est joint aux Giants, on l'a échangé, on l'a envoyé aux Giants de New York. En retour de choix de troisième ronde du côté de New York, bon, on espère qu'il va pouvoir donner un coup de main à Daniel Jones, à qui on a donné un nouveau contrat. Mais ça va pas un peu dans le sens de qu'est-ce que je parlais tout à l'heure, là. On se débarrasse d'un joueur qui était établi du côté de Las Vegas pour un choix au repêchage. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, autant du côté des Raiders et de l'arrivée de Waller à New York avec Daniel Jones?
Ben moi, Darren Waller, c'est un joueur que j'adore depuis plusieurs saisons. Et c'est dommage qu'au cours des quoi, 2 dernières années maintenant, les blessures l'aient ralenti. Non seulement il manquait des matchs, mais même quand il était sur le terrain, on voyait qu'il n'était pas à 100%. Puis c'est un joueur qui vient avec un gros bagage parce que, bon, on le sait, il a eu des problèmes en début de carrière, dans sa vie personnelle, a réussi à les régler et est devenu un joueur étoile. Et là, au lieu de parier sur le fait qu'il pourrait revenir à ses belles années, de redevenir l'ailier rapproché, même on peut même dire receveur parce qu'on l'alignait un peu partout, là, Darren Waller. On décide de prendre une chance avec un choix de troisième ronde. C'est quoi les chances qu'on repêche un joueur aussi efficace que Darren Waller avec ce choix-là? Elles sont, somme toute, assez faibles. Et les Raiders sont une équipe qui, présentement, essaie de participer aux éliminatoires. Donc, j'ai un peu de difficulté à voir où est-ce qu'on s'en va avec cette transaction-là qui, visiblement, affaiblit notre attaque. Maintenant, de voir Waller débarquer avec les Giants, bon, le prix, on vient de le dire, un choix de troisième ronde, je pense que c'est un bon montant. En plus, si je me trompe pas, c'est le choix que les Giants avaient reçu pour Kadarius Toney l'an dernier. Donc, on n'y
Ah
portait pas
oui?
nécessairement notre banque de choix personnel. D'ajouter Darren Waller, c'est sûr que ça vient aider Daniel Jones, qui, on va se le dire, en avait besoin. Maintenant, je serais pas surpris de voir les Giants ajouter aussi au poste de receveur au repêchage, parce que quand on regarde le groupe. Bon, Darius Slayton, Azaï Hodges, c'est des receveurs qui sont capables de faire bon, un bon travail de soutien, mais il n'y a pas de receveur numéro un, selon moi, dans cette équipe-là. Et si on veut voir Daniel Jones progresser l'an prochain, ça va lui prendre un meilleur groupe. Parce que Daniel Jones, oui, a connu de loin sa meilleure saison en carrière, a réglé peut-être son plus gros problème qui était les revirements, mais on ne peut pas dire non plus que statistiquement qu'il a mis une grosse saison sur le tableau. Puis avec 40 millions de dollars par saison, si l'an prochain, Daniel Jones me revient avec un copier-coller de la saison dernière. Je pense que les critiques vont être assez sévères à son endroit parce qu'il a besoin de s'améliorer. Il a été payé en sachant ou du moins en considérant de la part des Giants qu'il y aurait une progression à suivre l'an prochain. J'ai hâte de voir si ça va se produire.
Ouais, je pense que les Giants sont conscients de ça, parce qu'on lui a pas donné un contrat de 10 ans non plus. Hein?
Non, exact.
Donc, je pense on est conscient de ça, parce qu'encore une fois, c'est un peu la même question là, que je posais du côté des Ravens. Si Daniel Jones n'est pas de carrière à New York, ça va être qui? C'est facile de dire, OK, Daniel Jones, il ne vaut pas 40 millions, mais quand on regarde le marché des carrières qui étaient disponibles sur le marché, bon, Aaron Rodgers n'allait pas aller avec les Giants, on s'entend là-dessus, mais c'est quoi les autres options? Derek Carr, Geno Smith a re-signé avec les Seahawks de Seattle. Le marché était limité, donc je peux comprendre les Giants leur donner une prolongation de contrat à Daniel Jones, mais il faut bien l'entourer, puis on est conscient de ça à New York, clairement, avec l'arrivée de Darren Waller. Mais c'est un bon point que tu as parlé de Waller, parce que il a été effectivement blessé lors des 2 dernières saisons, comme tu disais. Il est maintenant âgé de 31 ans aussi.
Oui,
Puis
déjà.
je regardais ses statistiques, ouais. Puis je regardais ses statistiques. C'est ça, lui, comme tu as mentionné, bon, il avait des problèmes du côté de sa vie personnelle en début de carrière. C'est un alcoolique il suit toujours les traitements. Il va à ses rencontres de AA régulièrement. C'est ce qui est une bonne chose. Mais c'est ça, c'est pour ça. Donc, on a assisté à son émergence tardivement. Et puis, je regardais ça là, lorsque je me préparais justement pour le podcast. Je regardais ses statistiques. Sais-tu qu'il a marqué plus de 3 touchés en une saison, seulement une fois au cours de sa carrière,
Ouais,
Darren Waller?
exact.
Tu sais,
Pour une
avec le
grosse cible comme
physique qu'il
lui.
a.
Ouais.
Ben, c'est ça, près de la zone des buts, tu sais, on croirait que c'est une cible privilégiée. Alors, en tout cas, on va voir ce que ça va donner pour Waller pour la suite de sa carrière. Parce que comme toi, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que je l'aime. Il y a des bons
Ben
changements de
oui.
direction pour un joueur qui a son gros gabarit. Alors, on va voir s'il va pouvoir donner un coup de main à Daniel Jones et aux Giants. On va parler maintenant dans sa carrière des Raiders. Derek Carr, il a signé avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Là, soudainement, les Saints se retrouvent avec le meilleur carrière au sein de la section sud de la Nationale. Mais comme tu as si bien dit tout à l'heure, c'est pas comme si c'était très relevé à la position de carrière au sein de cette division. Alors, est-ce qu'avec l'arrivée de Carr à la Nouvelle-Orléans, est-ce que ça fait des Saints les favoris afin de terminer au premier rang de la section?
Ben présentement, j'ai pas le choix de te dire oui parce que j'ai tellement peur des autres corps arrière ou des alignements généraux du reste de la division sud de la nationale que présentement les Saints m'apparaissent comme étant l'ennemi le plus dangereux. Ceci étant dit, est-ce que je donnerais cher de leur peau une fois en éliminatoire? Ça c'est un débat un peu différent parce que ça va être difficile de se rendre loin. Mais écoute, l'an dernier, selon moi, les Saints ont un peu sous-performé par rapport au talent qu'ils avaient sur l'alignement. Il y a eu beaucoup de blessures qui leur ont fait mal. Évidemment, le jeu des corps arrière, que ce soit Jameis Winston ou Andy Dalton, n'était pas à niveau pour rivaliser avec les meilleures équipes de la NFC. Maintenant, cette année, je pense qu'on peut rivaliser. La NFC a encore un complexe, selon moi, d'infériorité par rapport à l'AFC comme l'an dernier. Plus de bonnes équipes
Beaucoup,
dans
même plus cette
l'AFC.
année
Ouais.
encore.
Ouais, ben exact.
Il n'y a
Donc,
pas beaucoup de carrières. Quand tu
ça.
regardes les carrières étoiles du côté de la NFC, mon Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont tous du côté de l'américaine ou à peu près.
Exact. Et là, Brady a pris sa retraite. Rodgers, selon toute vraisemblance, s'en va dans l'AFC. Matthew Stafford, son étoile a pâli. Donc, non, tu as raison, c'est encore pire que l'an dernier. Donc, pour cette raison-là, oui, je crois que les Saints se sont replacés sur la bonne voie. Ce n'est pas un contrat à long terme non plus, 4 ans. Le montant garanti dans les faits, si je ne me trompe pas, la majorité s'arrête après 3 ans. Donc, c'est une entente, un pas peut-être sur le côté, un peu vers l'avant, parce que définitivement, on est meilleur qu'avec Andy Dalton. Au poste de carrière, mais c'est pas non plus un grand pas. On n'amorce pas un nouveau cycle là, chez les Saints.
Ah, c'est bien dit, je suis bien d'accord avec toi. Derek Carr, moi, c'est une carrière qui te laisse sur ton appétit. Et, on penserait qu'il serait meilleur que ça. Il a un bon bras, mais souvent, bon, il préfère là, tenter les courtes passes plutôt que tenter de longues passes. Il semble être timide. Lorsqu'il se fait frapper tôt dans un match, ben, oublie ça après ça, là, tu l'as perdu pour le restant de la rencontre. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Si j'étais un partisan des Saints, bon, j'aurais de la difficulté à m'exciter à l'arrivée de Derek Carr,
Ouais.
mais bon, comme tu l'as si bien dit, quand tu regardes les autres carrières au sein de la section, il est le meilleur, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que je suis pas vraiment un fan de Derek Carr, là. Alors, écoute,
Et on va
maintenant, on
voir
va
si
regarder,
Michael
ouais, du côté
Thomas va être là.
de... C'est 5 ans qu'on dit ça. Ça fait...
Exact.
C'est à quand remonte la dernière saison complète de Michael Thomas? Je ris, mais en même temps, c'est pas drôle, parce que pauvre lui, écoute, il a été opéré, il a subi blessure après blessure. Puis on parle de blessure, quoi, c'est au pied, aux chevilles. Alors, on sait même
Exact.
pas s'il va être le même. Même si là, il est en santé, est-ce qu'il va être le même joueur qu'il était? Hey, ça fait longtemps, là, depuis sa grosse saison qu'il avait eue avec Drew Brees au poste de quart, là. C'est pas un bout de temps qu'on l'a pas vu. Alors, on verra. Je pense qu'on est conscient du côté des Saints qu'on peut pas vraiment se fier sur lui, là. Puis on a
Exact.
Chris Olave, qui a vraiment
Il a fait
connu
du
une
bon
belle
travail.
saison recrue. Ben oui, c'est ça. Donc, on va voir la suite des choses pour la Nouvelle-Orléans. Je lisais, il y avait des rumeurs comme quoi qu'on pourrait peut-être échanger Alvin Kamara. Ça va être quelque chose à surveiller au cours des prochaines semaines jusqu'au repêchage. Ça sera effectivement le cas. Maintenant, on va aller du côté de Miami, où les Dolphins, eux, ben écoute, c'est simple, ils mettent tous leurs jetons au milieu de la table. Ils sont all-in. Écoute, on a fait l'acquisition de Jalen Ramsey, ça n'a pas coûté cher. Là, Ramsey, il va avoir un nouveau contrat, donc ça va être un problème que les Dolphins vont devoir régler. C'est une des raisons pourquoi on l'a obtenu pour seulement un choix de troisième ronde, étant donné qu'il reste juste un an à son contrat. Alors, David Long, l'excellent secondeur de ligne qu'on a mis sous contrat, un contrat de 2 ans, ça n'a pas coûté si cher que ça. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose, mais David Long, j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur. Vic Fangio s'amène, il va être en charge de la défense. On sait que c'est un des meilleurs cerveaux en termes de défense de la NFL. Alors ça, c'est vraiment une très bonne acquisition du côté des Dolphins. Alors, à cause de toutes ces raisons, plus bien sûr, bon, la présence de Tyreek Hill, de Jalen Waddle et compagnie, est-ce que les Dolphins vont supplanter les Bills de Buffalo au premier rang de la section S? Est-ce qu'ils sont les favoris du côté de cette division déjà là?
Je suis pas encore prêt à
Oh,
faire
hésitation.
le grand changement. J'hésite. Par contre, je pense que si Aaron Rodgers se joint effectivement aux Jets, on va avoir une belle lutte à trois. Parce que les Bills ont perdu des morceaux durant la saison morte. Ils restent une équipe évidemment extrêmement compétitive. Ils ont le corps arrière assurément le plus talentueux ou du moins le plus hot présentement de la division avec Josh Allen. Maintenant, pour revenir à Miami, je pense que les additions qu'on a faites sont extrêmement intéressantes. Celle de David Long dont tu viens de parler, moi c'est un joueur que j'ai toujours aimé avec le Tennessee. Je sais qu'à la fin de la saison, il y a quelques langues au Tennessee qui ont dit que ce n'était pas nécessairement le plus travaillant, mais quand il est sur le terrain, il rate rarement des plaqués. C'est un joueur qui est capable de
Il est
courir d'une
rapide.
ligne de côté à l'autre. Donc non, moi, c'est une acquisition que j'ai beaucoup aimée pour cette équipe-là. Et celle de Jalen Ramsey, bon, c'est sûr que lui coûte cher son montant sur le cap salarial qui est à près de 25 millions, si je ne me trompe pas. Mais il ne faut pas oublier que les Dolphins viennent de libérer Byron Jones, qui était aussi un demi-coin anciennement étoile, qui coûtait 19 millions de dollars sur la masse salariale par année et qui n'a pas joué un seul jeu l'an dernier parce qu'il était blessé. A même tweeté récemment qu'il avait encore de la difficulté à sauter et à courir quand ça fait un an qu'il a été opéré aux jambes. Donc, on a passé à autre chose du côté de Miami. On a libéré de l'argent ici. Donc, à ce niveau-là, le salaire de Jalen Ramsey ne me fait pas si peur que ça. Et le fait qu'il a connu peut-être une saison un peu moins excitante que par le passé l'an dernier avec les Rams ne m'inquiète pas trop non plus parce que ça a été une saison difficile pour tout le monde chez les Rams l'an dernier. Et là, quand tu regardes le travail d'ensemble de Vic Fangio qui vient diriger cette défensive-là, et comme équipe de demi-défensif, ben, tu as Xavier Howard et Jalen Ramsey d'un côté, de chacun de leur côté. Et comme maraudeur, Javon Holland, le Canadien, et Brandon Jones, qui est un autre joueur que j'aime beaucoup, qui est très, très physique. Donc, je pense qu'on a possiblement là une des très bonnes, sinon la meilleure, le meilleur groupe de demi-défensif dans l'AFC, peut-être même dans toute la NFL. Je trouve ça intéressant parce que cette unité défensive-là, sous Brian Flores, rappelle-toi, elle crée beaucoup de revirements. Elle était la raison pour laquelle les Dolphins gagnaient des matchs. Et l'an dernier, on s'est dit avec l'arrivée de Tyreek Hill, l'explosion que l'attaque va prendre, se mêler ça avec la défense, ça va faire toute une équipe. Mais la défensive accordait des gros jeux et surtout ne créait pas de revirements. Et c'était la grosse difficulté des Dolphins. Si on est capable de combiner l'effet de la défensive du passé qu'on avait avec Brian Flores à l'attaque qu'on avait l'an dernier, ben là, Miami pourrait officiellement dire qu'ils deviennent favoris là, dans l'Est de l'AFC.
Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Pour moi, il y a deux choses qui vont être clés. La défense, comme tu viens de le dire, puis un joueur qui doit en donner plus aux Dolphins. Miami a fait l'acquisition, je crois que c'est à la date limite des transactions durant la saison, de Bradley Chubb, l'ailier défensif.
Oui.
On lui a donné un gros contrat en plus. Quelques semaines plus tard, on lui a donné une grosse prolongation de contrat. On a fait de lui un des ailiers défensifs les mieux payés de la NFL. Et pour moi, il ne vaut pas ça. C'est pas un joueur qui est explosif nécessairement. C'est pas un joueur qui va te donner 10 sacs ou plus, 10, 12 sacs année après année depuis le début de sa carrière. Donc lui, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'en théorie, avec Jalen Phillips, l'ancien choix de première ronde, à la position d'ailier défensif, potentiellement, on pourrait avoir un duo de chasseurs de quart intéressant. Mais Bradley Chubb, il doit en donner plus aux Dolphins qu'il ne l'a fait depuis qu'il est arrivé de Denver. La chose numéro un à surveiller, ça va être l'état de santé de toi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on en est conscient là, du côté des Dolphins. Ben ouais. Écoute, il a subi trois commotions cérébrales l'année dernière, dont on sait deux en cinq jours. On se souviendra le fiasco que ça avait été par l'équipe médicale des Dolphins au début de la saison. Et je crois que Miami est conscient de ça. Parce qu'on a mis sous contrat Mike White. Et puis ça, c'est bon, mis sous contrat qui a passé sous le radar. Mais Mike White a démontré de belles choses lorsqu'il s'est emmené en relève de Zach Wilson l'année dernière. Et puis, à la position de carrière là, des Dolphins, avec Waddle, avec Tyreek Hill, on le voit souvent avec toi, complète des passes de 7-8 verges, puis ces deux receveurs-là transforment ça en gain de 50-60 verges. Mike White est capable de le faire, ça. Donc, on est conscient de l'état de santé de toi, ton gouvernement, puis ça va être la chose numéro un. Malheureusement, à surveiller une fois que la prochaine saison va commencer. Maintenant, on va aller du côté de la section S, du côté de la nationale. Il y a deux équipes là, dont j'aimerais qu'on parle. On va commencer par les Cowboys de Dallas. Les partisans des Cowboys étaient inquiets là, parce que quand le marché des joueurs autonomes a commencé, ça a été long avant que les Cowboys mettent sous contrat un joueur. On se disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Mais finalement, on a mis sous contrat deux vétérans. En fait, on a mis sous contrat un vétéran, le demi-coin Stephon Gilmore. Et on a complété une transaction afin d'acquérir le vétéran receveur de passe, ancien des Texans de Houston, Brandon Cooks. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de ces ajouts du côté des Cowboys?
Ben, on va commencer avec celui de Brandon Cooks, si tu veux bien. On a payé quoi, des choix tardifs pour aller mettre la main sur lui, donc pas un gros prix à payer. Et ça vient un peu remplir la brèche qu'on avait créée l'an dernier, rappelle-toi, en raison du contrat d'Ezekiel Elliott, qui était énorme. On n'avait pas eu le choix que d'échanger Amari Cooper, de se débarrasser de lui, de l'envoyer à Cleveland pour pratiquement rien. Et là, ça avait créé un trou. Qu'on soit un grand fan ou non d'Amari Cooper, ça reste un joueur extrêmement talentueux, même s'il prend des jours de congé, même s'il est moins efficace sur les terrains extérieurs que lorsqu'il joue dans un dôme. Ça restait un receveur de grand talent. Et à Dallas, on avait un dôme, donc on était capable de le faire performer peut-être à son meilleur. Maintenant, avec Brandon Cooks, on vient chercher peut-être un receveur moins au talent naturel, un peu moins élevé qu'Amari Cooper, mais ça reste un des meilleurs dans la ligue pour étirer le terrain. Pour aller attaquer les zones profondes, il y a quand même un bel arbre de tracé qui a été capable de développer au cours des années parce que c'est un joueur qui a changé souvent d'équipe, qui a été changé 4 fois, si je me trompe pas, qui est un record de la NFL et qui a toujours performé partout où il est passé, peu importe qui était son coordonnateur, peu importe qui était son carrière, que ce soit chez les Patriots, chez les Saints, chez les Rams, on a toujours réussi à le faire performer, même avec les Texans. 6 fois en 9 saisons, si je ne me trompe pas, qui est allé dépasser la barre des 1 000 verges. Donc, je pense que l'acquisition est intéressante pour Dallas, mais c'est juste de se garder en tête qu'elle n'aurait pas été nécessaire si on avait fait une meilleure gestion de notre argent par le passé. On n'aurait jamais eu à se rendre jusque-là. Pour Stephon Gilmore, de ce côté-là, je trouve que c'est tout court une bonne prise pour les Cowboys. Est-ce que c'est encore le joueur par excellence défensif qu'il a déjà été avec les Patriots? Bon, assurément pas. Mais l'an dernier, il y a quelques matchs avec les Colts où on l'a vu faire des jeux importants, où on l'a vu aller faire gagner littéralement des matchs aux Colts parce qu'en fin de match, il allait faire un gros jeu dans la zone début à rabattre un ballon. Donc, je suis content pour cette acquisition-là. Je pense qu'on avait besoin d'amener de la profondeur comme n'importe quelle équipe à notre défensive. Donc, oui, non, je suis positif somme toute avec ces additions-là et le départ d'Ezekiel Elliott.
Ouais, dans le cas de Stephon Gilmore, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais toutefois, les demi-coins qui sont dans la trentaine, moi, ça me fait peur. Parce que tu peux arriver à un camp d'entraînement, puis là, le joueur est juste un peu moins rapide qu'il ne l'a été par le passé. Puis là, ça va
Au
plus.
mois de
Ça va
décembre,
plus.
ça
Là,
arrive.
soudainement, ouais, non, c'est ça. Là, il accorde des passes complétées d'une cinquantaine de verges. Donc, ça n'en prend pas beaucoup, là, la position de demi-coin, la marge de manœuvre, bien que Gilmore, ça n'a jamais été la vitesse, sa marque de commerce, un demi-coin qui est robuste, il y a un gros physique pour un demi-coin, mais quand même, ça va être quelque chose à surveiller, là. Et pour Brandon Cooks, ça nous manque un receveur, comme tu l'as dit, hein. On croyait que Michael Gallup allait, tu sais, remplacer Amari Cooper, mais Gallup avait subi une blessure tard, un genou tard, vers la fin de la saison 2021. Bon, ça prend réellement 2 ans là, pour se remettre de ces blessures-là. On l'a vu avec Saquon Barkley en 2022 comparé en 2021, comment il était plus explosif. Alors moi, je m'attends à revoir le Michael Gallup qu'on avait vu avant sa blessure à un genou. Alors, avec l'arrivée de Cook, écoute, là, puis ça va vraiment ajouter de la profondeur au groupe de receveurs des Cowboys de Dallas. Mais finalement, on a libéré Ezekiel Elliott. Je pense que ça fait 3 ans que je disais constamment en ondes. Pourquoi on gardait Zeke? C'est Jerry Jones, je ne sais pas, il avait de l'amour pour Ezekiel Elliott, il était en amour avec le joueur que Zeke était au début de sa carrière, quand il était possiblement le meilleur demi à l'attaque de la NFL. Mais ça faisait longtemps là, que Ezekiel Elliott n'était plus ce joueur-là. Je sais que si on l'avait libéré plus tôt l'année passée ou il y a 2 ans, ben, son salaire aurait compté contre le plafond salarial. C'est une des raisons pour laquelle on l'a gardé, mais on l'a gardé longtemps. On a été trop patient envers Ezekiel Elliott. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si on va repêcher un demi à l'attaque pour le remplacer. Oui, Tony Pollard est là, mais Pollard, c'est pas un demi à l'attaque à qui tu peux remettre le ballon 25 fois par match. Il y en a très peu, de toute façon, ce genre de demi à l'attaque-là dans la NFL. Toutes les
Et
équipes
il a
misent au
été
moins
blessé
sur
lui
deux
aussi.
porteurs de ballon. Ben oui, c'est vrai, ouais, il s'est fracturé, a subi une fracture à une cheville lors du match éliminatoire contre les 49ers
Exact.
de San Francisco. Alors, bref, on parlait des carrières du côté de l'Association nationale. Pour les Cowboys, s'ils peuvent bien entourer Dak Prescott, puis là, si Dak peut bien jouer, éviter le revirement, parce que l'année dernière, il a été une machine à interception, mais s'il peut éviter les revirements, Dallas devrait être dans la course, là, pour participer au match de championnat de la NFC, il me semble.
Ben, je suis complètement d'accord. On devrait être, si l'an dernier on était compétitif, on devrait l'être encore cette année. Je me pose des questions. On vient de parler du groupe de porteurs de ballon. Je me pose des questions avec ce qu'on va faire au repêchage par rapport à ça, parce que tu vois, on séparait la tâche entre nos deux porteurs. Même si Zeke était clairement moins efficace que Tony Pollard, il restait que la dynamique d'avoir deux porteurs et le fait de pouvoir reposer Pollard quelquefois en donnant quelques portées à Ezekiel Elliott faisait peut-être que le groupe était meilleur au total. Maintenant, tu n'as plus Ezekiel Elliott pour venir faire ce ballon-là. Et Tony Pollard, ben, on vient de le mentionner, il va revenir d'une importante blessure à la cheville et il joue sur l'étiquette de joueur de franchise cette année, donc pourrait s'en aller l'an prochain de Dallas. Et est-ce qu'on va vouloir tout de suite planifier la suite? C'est le genre d'équipe qui aime beaucoup courir le ballon. Mike McCarthy a même dit en entrevue cette semaine ou la semaine dernière qu'il souhaitait encore plus courir avec le ballon cette année. Mais présentement, on n'a pas le personnel pour plus courir qu'on le faisait l'an dernier. Ça, c'est sûr et certain.
Ouais, mais c'est une position repêchage où c'est facile, entre guillemets, de trouver des
Exact.
joueurs recrues et que ces joueurs-là deviennent productifs dès leur première année. C'est à la position de demi à l'attaque. Et il y a beaucoup de profondeur à cette position-là. Beaucoup de très bons jeunes espoirs qui sont disponibles lors du prochain repêchage. Écoute, on sait que Pollard, il est rapide, explosif, excellent receveur en sortant de champ arrière. Alors, si tu veux aller chercher un demi à l'attaque, qui est peut-être plus gros, plus robuste pour jouer le rôle que Ezekiel Elliott jouait. Ezekiel Elliott, il était productif près de la zone des buts. Hein? Il est costaud, alors il était capable de se frayer un chemin pour se rendre dans la zone des buts. Si tu peux trouver un demi à l'attaque de ce style-là, mais qui est plus rapide que Zeke l'était lors des dernières années, je pense qu'on va être correct là, du côté des Cowboys. Mais effectivement, c'est un bon point, ça va être quelque chose à surveiller. Écoute, dernière équipe dont on n'a pas parlé, qui a retenu notre attention durant cette période-là de transaction, bien, ce sont les finalistes au Super Bowl, les Eagles de Philadelphie. On dit que les carrières ne sont pas relevées du côté de la NFC, mise peut-être sur la meilleure carrière de cette association là maintenant, en Jalen Hurts. Encore une fois, c'est fou comment les choses changent rapidement du côté de la NFL. On croyait assister vraiment à plusieurs départs du côté des Eagles de Philadelphie, mais quand on regarde ça là, avec du recul, finalement, ça n'a pas été si pire que ça, là. Ça aurait pu être pire là, du côté des finalistes du Super Bowl.
Ouais, ben écoute, d'abord on retient James Bradberry, le demi de coin. C'était déjà une victoire pour cette équipe-là, mais on se disait qu'en signant Bradberry, ça rimait avec la fin de Darius Slay. Nous a même annoncé le départ de Darius Slay. Lui-même avait fait des publications en disant merci Philadelphie, on s'en va ailleurs. Sa conjointe également là, qui avait publié. Et finalement, aux petites heures du matin ou tard le soir, on reçoit un tweet disant ben, finalement, non, je reviens avec les Eagles. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour Philadelphie parce que je parlais tantôt du duo de demi-coin des Dolphins, mais les Eagles aussi, là, on a un qui a fait de l'excellent travail lors de la dernière saison avec Bradberry qu'on avait eu pour une bouchée de pain et Slay. On a perdu Javon Hargrave qui s'en va vers les 49ers de San Francisco. Là, on est sur la ligne défensive. Sauf que les Eagles avaient prévu ce coup-là d'avance. C'est pour cette raison-là qu'on est allé chercher un Jordan Davis au repêchage l'an dernier, qui l'an dernier, bon, tranquillement a commencé à montrer des flashs. Mais en cours de saison, on a dû aller lui chercher de l'aide pour l'intérieur de la ligne défensive. Rappelle-toi quand on est allé chercher Ndamukong Suh, Linval Joseph également, qu'on a signé comme agent libre à la mi-saison en se disant on veut sécuriser le centre de notre ligne défensive. Si on a des blessés, si on a des contre-performances, on ne veut pas que ça nous affecte. Ben là, en ayant prévu le coup un an d'avance que Javon Hargrave quitterait, on a tout de suite un remplaçant pour mettre à sa place sur la ligne défensive. TJ Edwards qui quitte également. Ben, on a un N'Kobe Dean pardon, qui vient prendre aussi une place sur l'unité défensive des Eagles. Donc, je pense que dans l'ensemble, on se rajeunit. On a quelques petits points d'interrogation à savoir comment est-ce que ces gars-là vont réagir comme partant à temps plein. Mais règle générale, je pense vraiment qu'on a limité le dommage chez les Eagles de Philadelphie. Quand on se rend au Super Bowl, souvent, on perd de gros morceaux où on voit que l'an prochain, on ne peut pas répéter parce qu'il y a vraiment, on nous enlève un bras ou une jambe. Mais chez les Eagles, présentement, peut-être un ou deux orteils cassés, là, mais on a gardé l'ensemble de nos membres.
Ouais, c'est pas si pire que ça. Un ou deux orteils, c'est pas si pire que ça. Mais tu mentionnais l'autre de Ndamukong Suh, de Jordan Davis. Lorsque j'étais au Super Bowl, écoute, j'avais participé, bon, je couvrais les points de presse. Puis, mon Dieu, qu'ils sont immenses. Ça vaut aucun bon sens, Renaud. Ils sont immenses. Ouais, parce que j'oubliais, je parlais, je sais pas si avec Éric Leblanc, mon collègue de RDS, je parlais à quelqu'un, puis je me suis retourné, puis je suis arrivé face à face avec Ndamukong Suh. Ça n'a aucun bon sens comment il est large, Le Jordan Davis n'était pas si loin que ça. Ça n'a aucun bon sens, le cabaret
Non, non,
de
c'est
ces
des gros
joueurs-là.
bonhommes.
Même, ouais, vraiment, mais même Landon Dickerson, le garde, il est immense. Ils sont gros. Les joueurs de ligne sont plus gros que jamais, là. Les plaqueurs, puis les joueurs de ligne à l'attaque. Bref, je vais fermer ma parenthèse. On a eu des départs. Les deux coordinateurs sont partis, hein. Shane Steichen, qui était le coordinateur à l'attaque, est maintenant l'entraîneur-chef des Colts d'Indianapolis, alors que Jonathan Gannon, qui était le coordinateur de la défense, lui est maintenant l'entraîneur-chef des Cardinals de l'Arizona. Partant des gauches, je pense pas qu'ils sont très tristes d'avoir vu Gannon partir, surtout à la suite de la performance de l'unité défensive lors du match du Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, des orteils de cassé du côté des Eagles de Philadelphie, mais finalement, on a pu conserver certains de nos joueurs, de nos vétérans. Et puis, on a des jeunes joueurs qui sont là, parce que les Eagles ont bien repêché lors des dernières années. Donc, on a de la profondeur. Alors, je ne suis pas trop inquiet pour Philadelphie, surtout si Jalen Hurts, ben, une autre saison comme il a eu lors de la dernière saison, il continue de progresser en tant que passeur. Lors du match Super Bowl, il était le meilleur joueur sur le terrain. C'est dommage pour lui que Philadelphie a perdu. Personnellement, moi, je croyais qu'il aurait dû mériter le titre de joueur par excellence de la rencontre, malgré la défaite des Eagles. Bon, on sait, on donne tout le temps en carrière partant de l'équipe gagnante. Mais bref, plus peur que de mal pour les partisans des Eagles de Philadelphie. Justement, on a un partisan des Eagles qui attend son tour afin de participer au podcast. C'est Marc-André Chaloux, un grand partisan des Eagles. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Hey, Renaud, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de t'accueillir au podcast. J'espère qu'on va avoir l'occasion de répéter
Moi aussi.
l'expérience une fois que la saison des Alouettes sera commencée, puis à l'automne, la saison de la NFL. Comme je le disais là, profite du temps mort parce que le camp d'entraînement des Alouettes commence en moins de 2 mois déjà. Là, c'est fou comment ça va vite la saison morte. Alors, profite-en bien, on va se recroiser de toute façon.
Salut Didier, merci beaucoup de l'invitation. Je reviendrai n'importe quand.
Bon, ben, c'est excellent. Moi, je vais t'accueillir n'importe quand au podcast. Porte-toi bien. Salut.
Salut.
Alors maintenant, on va se tourner vers le volet fantasy football là, de ce qui s'est passé là, lors des dernières semaines, de toutes ces transactions. Comme je le disais, si vous ne le savez pas, Marc-André est un grand partisan des Eagles de Philadelphie. Rapidement, Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé justement de la saison morte jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu penses de la saison morte jusqu'à présent de ton club finaliste au Super Bowl? Et est-ce que finalement, là, tu t'es remis de cette défaite là, contre les Chiefs?
En tout cas, si le journaliste en moi voulait vraiment cacher son affection pour les Eagles, c'est raté. Didier, tu le rappelles aux gens à toutes les fois qu'on se parle. Mais oui,
Mais
ben,
t'es
vous
un vrai
avez vraiment.
partisan, écoute, c'est ton club depuis longtemps, là.
Ouais. Mais j'essaie, en tant que journaliste, en tant qu'expert, whatever, ou autant d'observateur fantasy, j'essaie de demeurer quand même impartial. Mais oui, vous avez bien résumé quand même la situation des Eagles. Je pense qu'on a évité le pire. Et je vais vous parler, Didier, d'une signature à l'attaque tout à l'heure qui m'emballe particulièrement du côté des Eagles.
OK, parfait, parfait. Ben, excellent. Écoute, on va commencer ben justement les gagnants et les perdants de la période des joueurs autonomes selon toi. Mais vraiment, on va se concentrer là, du côté fantasy football. Écoute, on va commencer avec un joueur dont on vient d'en discuter il y a quelques minutes avec Renaud, le demi à l'attaque Tony Pollard des Cowboys de Dallas. Selon toi, il est un des gagnants de la période des joueurs autonomes. Ça, j'imagine, c'est à la suite du départ des Écarlates.
Exactement, on pense, le cercle fantasy pense, et moi aussi je pense qu'il va vraiment bénéficier du départ d'Ezekiel Elliott en 3 matchs l'an dernier, en 3 départs sans Ezekiel Elliott dans la formation. Didier, Tony Pollard est terminé comme porteur de ballon numéro 1, comme porteur de ballon numéro 3 et comme porteur de ballon numéro 7 lors de ces 3 semaines-là. C'est super intéressant. Parmi les porteurs de ballon qui ont porté le ballon au moins 100 fois la saison dernière, Tony Pollard a une moyenne de verges par course de 5,2. C'est la cinquième plus haute dans la NFL. Il a terminé vraiment la saison au niveau fantasy comme porteur de ballon numéro 7. Et ça, c'était avec Ezekiel Elliott, en partageant le travail avec Ezekiel Elliott. Pour moi, Tony Pollard, parce que je suis un peu d'accord avec vous, je pense que les Cowboys vont faire une addition au poste de porteur de ballon d'ici le camp d'entraînement. Mais si les Cowboys ne font rien, Tony Pollard, pour moi, devient un porteur de ballon top 10 au niveau fantasy, assurément la saison dernière, voire même peut-être top 7, top 8. Et vous en avez parlé tantôt, Renaud l'a mentionné, Mike McCarthy a dit dernièrement que les Cowboys veulent courir davantage avec le ballon. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour Tony Pollard, je trouve. Par contre, je suis comme vous, ce serait très Jerry Jones-esque d'ajouter un Bijan Robinson au repêchage ou peut-être de signer un gars comme Kareem Hunt en ce moment, un gars qui pourrait venir jouer dans les plates-bandes où on pourrait créer un petit comité avec Tony Pollard et ainsi nuire à sa valeur fantasy d'ici le début de la saison.
Ben, c'est sûr qu'il va y avoir un autre demi à l'attaque qui va se joindre aux Cowboys, que ce soit via le marché des joueurs autonomes, soit le repêchage, garder Bijan Robinson dans l'État du Texas. Peut-être que Jerry va vouloir faire ça. Mais comme je le disais tout à l'heure avec Renaud, il y a beaucoup de profondeur à la position de demi à l'attaque qui va être disponible lors du repêchage. Puis on le voit année après année, Marc-André, tu le sais. Il y a des demi à l'attaque repêchés, quatrième, cinquième, sixième ronde, septième ronde, comme Isaiah Pacheco. Qui a marqué un toucher au Super Bowl et puis qui a livré de fiers services aux Chiefs de Kansas City tout au long de la saison régulière. Donc, je ne suis pas inquiet, là. Mais il va y avoir quelqu'un, un autre demi à l'attaque dans le champ arrière des Cowboys de Dallas. On ne sait juste pas son identité. Mais encore une fois, est-ce qu'il va venir voler des touchés à Tony Pollard? C'est ça qui reste à voir de quelle façon ce joueur-là sera utilisé. Maintenant, il y a un ancien de ton équipe des Eagles, Miles Sanders, qui lui, bien, se retrouve avec les Panthers à Caroline. J'ai toujours trouvé qu'il était sous-utilisé du côté des Eagles de Philadelphie, Miles Sanders. Alors, pour toi, il est un des gagnants justement de la période des joueurs autonomes.
Mais Miles Sanders, l'année passée, Didier, c'est près de 1300 verges, c'est 1269 verges, c'est 11 touchés au sol. Et il a vraiment choisi la bonne saison pour connaître la meilleure saison de sa carrière, puisqu'il n'avait pas franchi la barre des 900 verges au sol lors de ses trois premières saisons dans la NFL. Miles Sanders, Didier, on oublie qu'il a une moyenne en carrière de 5,1 verges par course. C'est la troisième plus haute moyenne chez les joueurs actifs en ce moment dans la NFL. C'est quand même excellent. Et on sait, l'année passée, les Panthers de la Caroline, spécialement avec Steve Wilkes, quand Steve Wilkes était l'entraîneur-chef, ben on a vraiment axé notre attaque sur le jeu au sol et ça a vraiment rapporté des dividendes, spécialement en fin de saison. On s'est mis à gagner des matchs et cette année, la ligne à l'attaque des Panthers, qui était quand même excellente, je trouve, en fin de saison, les joueurs, la ligne à l'attaque au complet est de retour. Donc, pour moi, ça l'indique qu'on va essayer de courir à outrance et Miles Sanders, vraiment, c'est une opportunité pour lui d'avoir enfin plus de volume. Et il y a vraiment des connexions aussi. Hein? Miles Sanders rejoint Deuce Staley, qui était l'entraîneur des porteurs de ballon des Eagles à l'époque, qui l'a bien connu. Donc, la ligne à l'attaque est de retour, mais le petit bémol, c'est que, évidemment, les Panthers, ben, pour moi, ce sera une moins bonne attaque que les Eagles. Est-ce qu'il y aura autant d'opportunités d'inscrire des touchés ou est-ce qu'on va avoir autant d'opportunités puisqu'on va potentiellement tirer de l'arrière dans les matchs? Ça reste à voir, mais avec également un corps recru, hein, on se le cachera pas, il y aura un corps recru chez les Panthers la prochaine saison. Mais pour moi, Miles Sanders, en termes d'opportunités et de volume, ça devient un porteur de ballon numéro 2 fantasy. Un porteur de ballon avec un potentiel fantasy quand même intéressant, un porteur de ballon qu'on pourrait probablement aller chercher en quatrième ou cinquième ronde de vos repêchages fantasy et qui pourrait vous rapporter des dividendes selon moi.
Oui, j'ai hâte de voir là, de quoi l'attaque des Panthers va avoir l'air. Parce que comme tu l'as dit, Steve Wilkes, lorsqu'il avait été nommé entraîneur-chef par intérim, lui, il s'était pas cassé la tête. Hein. On courait des fois 40 fois avec le ballon. Alors lui, il se disait, regarde, on a une bonne défense, on va courir avec le ballon, on n'a pas de carrière. Là, je ne sais pas si Frank Reich va adopter le même style de jeu, ce sera à surveiller. Il y a un autre demi à l'attaque qui sort gagnant de la période là, des joueurs autonomes. Lui, il demeure avec la même équipe, mais tu crois qu'il pourrait être plus utilisé par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je parle bien sûr de Ramondre Stevenson.
Les Patriots ont fait signer un contrat à James Robinson. Ça, ce que ça me dit pour moi, c'est que c'est un vote de confiance envers Ramondre Stevenson, Didier. Faut pas oublier que Ramondre Stevenson, l'année passée, a terminé huitième en format PPR. Et ça, c'est en inscrivant seulement 6 touchés durant toute l'année. Donc ça, c'est intéressant. L'année passée, il a marqué, Ramondre Stevenson, 3 touchés en 19 courses à la porte des buts. Et si on prend pour acquis qu'il y aura probablement une légère progression à ce niveau-là, ben je pense que Ramondre Stevenson peut devenir un porteur de ballon intéressant, un porteur de ballon même numéro 1 intéressant que vous pouvez repêcher en deuxième, troisième, quatrième ronde. Il a été l'année passée, Ramondre Stevenson, parmi les meneurs pour les verges après contact. Et Je voulais apporter également le point, la venue de Bill O'Brien au poste de coordonnateur offensif, enfin chez les Patriots, Didier. On n'a pas des coordonnateurs défensifs qui jouent les coordonnateurs offensifs. On a un vrai gars d'attaque, une vraie tête de football. Donc, pour moi, ça va aider Rhamondre Stevenson à connaître potentiellement une meilleure saison ou à potentiellement encore éclore davantage dans cette attaque-là.
Oui, écoute. Surtout là pour Mac Jones, pauvre Mac Jones. Je me souviens là, il y a un match qu'on avait diffusé, ça allait mal pour lui. Puis là, il retournait sur les lignes de côté, il s'assoyait sur le banc. Là, d'un côté, il y avait Joe Judge, puis de l'autre côté, Matt Patricia, qui essayait de lui donner des conseils. Patricia qui était sélectionneur de jeu, Joe Judge, entraîneur des carrières. Ça n'avait pas de bon sens, pauvre Mac Jones. Alors oui, comme tu dis, au moins Bill O'Brien, on sait, c'est un entraîneur professionnel, là, il sait qu'est-ce qu'il fait. Ça ne peut pas être pire selon moi. Alors, on va voir si ça va également aider la production de Rhamondre Stevenson. Maintenant, bon, ça n'a pas été rose là, pour tous les joueurs là, à la suite de la période des joueurs autonomes. Il y en a pour qui, selon toi. Oui, vas-y.
Ah, j'avais des autres gagnants rapidement,
Ah
Didier,
oui, ben oui,
dans un
vas-y,
autre tableau.
excuse-moi.
Excuse-moi. Puis en plus, je venais de
Non, non,
teaser qu'il y
non,
aurait
pas
un joueur
d'excuser.
des
C'est moi
Eagles
qui allais
en
trop vite,
plus.
là.
Il y avait un
Oui.
joueur des Eagles en plus dans ce tableau-là. C'est important.
Ben oui,
Ma
Rashad Penny.
partisanerie. Exactement. On va commencer par Rashard Penny. Je trouve tellement que c'est un bon pari pour les deux clans, c'est-à-dire pour les Eagles et pour Rashard Penny. Il a signé un contrat d'un an seulement à 1,3 millions de dollars. Rashard Penny, je le sais, c'est des chimères. Il ne restera jamais en santé. Il ne jouera jamais une saison complète. Mais s'il joue une saison complète, ça demeure un porteur de ballon au potentiel explosif.
Mais c'est l'histoire
Écoute,
de sa carrière, hein? S'il est en santé, si, c'est tout le temps ça, s'il peut jouer toute la saison, c'est tout le temps ça avec Rashad Penny, malheureusement, il est tout le temps blessé. Mais il est talentueux, ça, aucun doute là-dessus.
Regarde ces stats-là. Il a 7 de ses 14 touchés en carrière sont sur des courses de plus de 30 verges. Donc, pour moi, pour
Wow!
les Eagles, pour un porteur de ballon, tu sais, on a perdu Miles Sanders et on le remplace par Rashad Penny pour des peanuts. Pour moi, je trouve que comme je disais, c'est un bon pari pour les Eagles. Et s'il y a encore de l'essence dans le réservoir du côté de Rashad Penny, ben, les Eagles vont savoir l'utiliser à bon escient dans un comité. Je pense encore que Kenneth Gainwell est le porteur de ballon à avoir l'année prochaine du côté des Eagles, mais Rashad Penny devient une signature intéressante. Je veux t'amener du côté de Samaje Perine. On salue l'agent de Samaje Perine qui a vraiment déniché pour son client une belle opportunité d'obtenir des ballons dans un champ arrière quand même parce qu'on sait que Javonte Williams va me rater le début de la saison assurément et peut-être même toute la saison. On ne sait pas comment qu'il va revenir de sa blessure, de sa grave blessure. Et dans les trois matchs l'année dernière où Samaje Perine a joué au moins 60% des jeux, il a terminé trois fois dans le top 10 à la position de porteur de ballon et deux fois dans le top 3. Et on sait, il a été utile l'année dernière, ce Samaje Perine, en situation de passe également. Il a obtenu quand même beaucoup de verges. Et on sait qu'avec Sean Payton, les porteurs de ballon de Sean Payton, traditionnellement, on pense à Alvin Kamara, on pourrait même remonter à Pierre Thomas, mais ça devient les porteurs de
Ou Pierre
ballon
Thomas.
de Sean Payton sont quand même utiles en fantasy. Ils connaissent de bons moments. Et je veux vous parler de Garrett Wilson. C'est sûr qu'il est un gagnant pour moi si Aaron Rodgers signe avec les Jets. J'embarque, je suis de, je, si Aaron Rodgers est à New York, je deviens un fan de Garrett Wilson parce qu'on est en train à New York, de faire les 12 travaux d'Astérix ou les 3-4 travaux d'Aaron Rodgers parce que là, on a signé
Pour la
Nathaniel
tirer,
Hackett
là.
comme garanteur offensif. On a signé Allen Lazard. Si on va retentir Randall Cobb prochainement, ben ça s'en vient. Et pour moi, je sais que Aaron Rodgers est en fin de carrière, mais ça va demeurer le meilleur corps que Garrett Wilson aura eu dans sa courte carrière ou l'année passée. C'est mieux que Zach Wilson ou que Joe Flacco. Donc, il y a un potentiel top 10 pour moi pour Garrett Wilson à la position de le receveur de passe au niveau fantasy.
Ah, que Garrett Wilson avait beaucoup aimé de sa part l'année dernière, comme tu l'as dit, malgré le fait qu'on n'avait pas de stabilité au poste de carrière. Il a trouvé une façon d'être productif malgré tout. Alors ça, c'est tout à son honneur. C'est un bon point que tu as amené, le champion Payton. Premièrement, ça faisait très longtemps que j'avais pas pensé à Pierre Thomas, premièrement. Mais, tu sais, on parle beaucoup bon, des Saints à cette époque-là avec Drew Brees, du jeu aérien. Mais Sean Payton, lui, il aimait avoir une attaque équilibrée. Il aimait être en mesure de courir avec le ballon. Il n'a jamais négligé l'utilisation du jeu au sol. Et puis Russell Wilson, qui a connu une saison d'enfer l'année dernière, il n'y a aucun doute que Peyton va miser sur une bonne attaque au sol. Du moins, il va tenter de courir avec le ballon. On a fait des acquisitions au sein de la ligne à l'attaque également. Des Broncos de Denver ont été chercher des joueurs de ligne à l'attaque qui sont robustes, qui sont bons pour bloquer au sol. Donc ça indique qu'il va essayer de répéter un peu le champ d'attaque qu'il avait à l'époque avec les Saints lorsque Drew Brees était là. Maintenant, bon, on va y aller là, du côté des perdants. Au niveau de la période des joueurs autonomes. Écoute, j'étais un peu rouillé, là. Ça fait quoi? Un peu plus d'un mois qu'on n'avait pas enregistré un épisode du podcast. Mes excuses. Alors, on va commencer par le demi à l'attaque, oui, DeAndre Swift, qui, selon toi, est un des perdants là, des transactions qui ont été effectuées par les Lions de Détroit.
Les Lions ont fait une grosse acquisition durant l'entre-saison, celle de David Montgomery des Bears. Ils ont fait signer un contrat de 3 ans avec 11 millions garantie. Et ça, c'est intéressant dans le cirque fantasy parce que l'argent garanti à un porteur de ballon, ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on croit que David Montgomery fait partie d'une solution, à un problème qu'on avait avec Jamal Williams. Et clairement, du côté des Lions, ce que ça dit, c'est que DeAndre Swift n'est pas un porteur de ballon de 3 essais. On pense qu'il n'a pas la durabilité d'un porteur de ballon de 3 essais. Oui, il va être utile en situation de passe. DeAndre Swift, il est utile dans de l'espace, en situation de passe, mais il ne peut vraiment pas courir au centre d'une ligne d'attaque. Ça va être le rôle, selon moi, de David Montgomery. Et Montgomery, l'année passée, Didier a quand même capté 32 ballons. Donc ça aussi, ça peut-être venir jouer dans les plates-bandes de DeAndre Swift. Donc pour moi, DeAndre Swift demeure un porteur de ballon qui aura un certain impact parce qu'il est explosif par moment. Mais force est d'admettre que les Lions que les Lions pensent qu'il ne peut vraiment jouer durant ne peut obtenir 20-25 courses ou occasions par match. Donc, avec un temps de jeu limité en 2023, c'est terminé l'époque où on croyait que DeAndre Swift était un choix de première ou deuxième ronde au niveau fantasy. Ça devient pour moi un pivot avec un potentiel, comme je dis, de jeu explosif en 5e, 6e, 7e ronde. Donc, DeAndre Swift, un des grands perdants de la période des joueurs autonomes jusqu'ici.
Ouais, malheureusement, il n'est pas fiable en raison des nombreuses blessures qu'il a eues. Puis les Lions ont fait des bonnes acquisitions. Là, j'en ai pas parlé avec Renault, mais ils ont fait des bonnes acquisitions. Là, ils sont favoris là, à Las Vegas afin de terminer au premier rang de la section Nord. La Nationale, ben, écoute, Aaron Rodgers, ce sera plus long. On sait que c'est sa section habituellement, mais là, il n'est plus là. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça, là, étant donné qu'il y a des attentes pour les Lions, si on pourra justement répondre à ces attentes-là. Maintenant, quels sont les autres joueurs qui sont des perdants là, à la suite des transactions auxquelles on a assisté depuis le début de la saison morte, selon toi?
Bien, rapidement, j'avais Chris Godwin et Mike Evans, un duo, le duo de receveurs de passe étoiles des Buccaneers de Tampa Bay. Que ce soit Kyle Trask ou que ce soit Baker Mayfield, ça n'augure rien de bon pour Chris Godwin et Mike Evans. Avec Tom Brady au poste de quart, on a tenté 700 passes lors des 2 dernières saisons. Et on le sait, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'avec Kyle Trask ou Baker Mayfield, on ne tentera plus 700 passes cette année. Donc, ça va changer. La qualité des passes également va changer. Pour moi, Chris Godwin demeure un excellent demi-inséré. Ça devrait être lui qui aura davantage de volume dans l'attaque des Buccaneers. Mais pour moi, il demeure peut-être le meilleur des deux, la meilleure option des deux, avec peut-être un choix de 3e, 4e ronde au niveau fantasy. Mais pour Mike Evans, qui a maintenant 30 ans, qui a joué seulement, on se rappelle, hein, je vous en avais parlé, il a sauvé un peu sa saison fantasy avec une performance incroyable lors de la dernière semaine. Ça n'augure rien de bon. Je pense qu'il n'est plus un receveur de passe avec ces quarts-là dans le top 20 au niveau fantasy. Et par la bande, on a libéré Leonard Fournette du côté des Buccaneers. Et donc, pour moi, Rashad White devient intéressant, devient un gagnant. Je pense qu'il y aura des opportunités de se faire valoir dans cette attaque-là. Donc, pour moi, je suis out de Chris Godwin et Mike Evans. Et j'ai bien hâte de voir. Je trouve quand même Rashad White intéressant. Mais encore là, ça reste qu'un problème de ligne à l'attaque du côté des Buccaneers. Elle a été décimée l'année dernière. Je ne sais pas. Ça reste à voir si elle sera. Elle aura meilleure mine.
Oui, ça va être à surveiller, aucun doute là-dessus. Maintenant, on va se tourner du côté de Chicago. On a fait l'acquisition de DJ Moore. Finalement, on a receveur de passe numéro 1. Afin de donner un coup de main à Justin Fields, j'en parlais tout à l'heure avec Renaud. Mais malgré tout, toi, tu crois que DJ Moore est un des perdants là, de la saison morte jusqu'à présent.
On était plusieurs à penser que en sortant de l'enfer des Panthers de la Caroline, que DJ Moore allait enfin éclore. Mais moi, je ne suis pas si convaincu de ça. En fait, je trouve que les succès de DJ Moore vont être liés à la progression de Justin Fields cette année. Parce que l'année passée, les Bears, Didier, là, ils ont passé 43,8% du temps seulement. C'est le pire ratio dans la NFL. Et Justin Fields, l'année passée, a tenté seulement 21 passes par match. Ça, c'est minime, on s'entend. Donc, pour moi, on perd en volume du côté de DJ Moore. Et pour la première fois de sa carrière, je trouve que DJ Moore aura aussi de la compétition pour obtenir des ballons. Vous avez parlé tantôt de Darnell Mooney, vous avez parlé de Chase Claypool, et je serais même pas surpris qu'on ajoute du talent à la position de receveur de passe via le repêchage du côté des Bears. Donc, ce serait intéressant à voir. Donc, pour moi, DJ Moore, oui, c'est un bon receveur, c'est un bon receveur fantasy, mais de là à dire qu'il devient un receveur élite au niveau fantasy, je suis pas encore convaincu.
OK, bon, on va voir. Écoute, DJ Moore, ses statistiques en carrière, si tu prends toutes ses statistiques depuis le début de sa carrière, ben, il serait le receveur de passes le plus prolifique de l'histoire des Bears de Chicago. Ça, c'est pour démontrer à quel point, au cours de l'histoire des Bears, on n'a pas été bien nantis en termes d'attaque aérienne. On sait, on n'a pratiquement jamais de carrière. On a participé en 2006 au Super Bowl avec Rex Grossman au poste de quart. Alors, c'est toujours laborieux d'attaque aérienne traditionnellement du côté des Bears de Chicago. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui, selon toi, sont sortis perdants là, du mouvement de personnel des dernières semaines.
Pendant quelques heures, Khalil Herbert, avec le départ de David Montgomery, était un gagnant, mais il est aussitôt redevenu un perdant. Puisque les Bears ont fait l'acquisition de Dante Foreman, qui a vraiment connu une excellente saison l'année dernière, une moyenne de 4,5 verges par course en 2022. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on pense encore qu'on pourrait avoir un comité de porteurs de ballon. Et on sait que Justin Fields également aime courir au sol. Donc, ça réduit vraiment les opportunités au sol pour Khalil Herbert. Je veux vous parler de Brandon Cooks avec les Cowboys, vous en avez parlé tout à l'heure. Était-ce l'année passée, Didier, l'inefficacité des quarts des Texans ou est-ce que Brandon Cooks a ralenti? Pour moi, on va le savoir assez vite avec les Cowboys. Et je ne sais pas, hein, Brandon Cooks, c'est un receveur qui aura 30 ans en septembre. C'est un receveur qui se sort d'une situation où l'attaque aérienne était médiocre pour venir dans une attaque prolifique. Ça ressemble étrangement à un receveur avec des manches longues la saison dernière pour qui, finalement, c'est un fiasco. Lorsqu'il a été échangé des Bears aux Rams, Allen Robinson. Donc, pour moi, je mettrais un petit bémol sur la signature de Brandon Cooks par les Cowboys. Et je vais vous parler de Jacoby Myers. Oui, Jacoby Myers, pour ton portefeuille, c'est une excellente idée de signer avec les Raiders, mais pour moi, il passe d'un receveur un receveur numéro 1 à un receveur numéro 2, voire même numéro 3, parce qu'on sait qu'il y a Devontae Adams et même Hunter Renfrow. Et lorsqu'on sait que Devontae Adams, lors des 4 dernières saisons, a commandé près du tiers des targets, donc il a été ciblé près du tiers du temps par son corps arrière, mais pour moi, Jacoby Myers demeure quand même, devient un receveur vraiment marginal au niveau fantasy, un receveur 3 ou un pivot dans des semaines ciblées lorsque l'affrontement est vraiment avantageux.
Alors, je suis pas inquiet, moi, personnellement, pour Brandon Cooks, parce que souviens-toi, la dette limite des transactions, lui, il était en furie que les Texans ne l'avaient pas échangé et voulait quitter Houston à tout prix. Même, je pense qu'il n'avait pas joué pendant 2 semaines, là, le temps de se remettre de sa déception de ne pas avoir été échangé. Alors, je pense qu'il va tellement être heureux de ne plus faire partie de l'organisation des Texans de Houston qu'au moins pour une saison, là, il va très bien jouer, il va très bien performer sur le terrain. Écoute, là, tu passes de Davis Mills à Dak Prescott, de Houston à Dallas. Non, j'ai confiance en Brandon Cooks. Il va retrouver la fontaine de jouvence, j'ai l'impression, cette année. Bref, on verra. On aura l'occasion de s'en reparler de toute façon, parce qu'on est juste au mois de mars. On parle de ça avec enthousiasme. On parle de toutes ces transactions-là, mais la réalité est qu'on ne verra pas ces joueurs-là sur le terrain pendant un bon bout de temps. Les matchs préparatoires vont avoir lieu au mois d'août, puis plus ça va, moins que les joueurs vedettes jouent lors des matchs préparatoires. Donc, quand on parle au mois de septembre, ben, c'est dans 6 mois. Là. Donc, on a 6 mois à patienter avant de voir tout ce beau monde-là en action.
Il y a seulement Josh Jacobs qui joue les matchs préparatoires puis le match du Temple de la Renommée même.
Ouais, l'année passée, ben oui, souviens-toi. Mais là, je pense pas que cette année, on va le faire, là. On va
Non.
l'utiliser dans des matchs préparatoires. Après, la saison qu'il a connue, là, ce serait de la folie du côté des Raiders. Mais après, avec Josh McDaniels, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qu'il fait. Alors,
Ah.
tout est possible. Rien n'est impossible avec McDaniels à la barre des Raiders.
Non, non, vraiment, ça reste à voir. Écoute, je suis un peu comme vous autres, du coup, avec les Raiders, là. J'ai pas parlé pour Jacoby Myers, j'ai pas parlé de Jimmy Garoppolo non plus. Je pense vraiment que c'est une régression ou c'est une moins bonne situation pour les receveurs de passe des Raiders avec Jimmy Garoppolo que ça l'était avec Derek Carr. Mais on s'entend que c'est deux quarts moyens de toute façon.
Oui, non, ben c'est ça exactement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'étais un partisan des Saints. Ben, je ne serais pas si emballé de ça, de l'arrivée de Derek Carr, mais comme Renaud disait, il est de loin le meilleur carrière dans la section. Alors, peut-être que c'est juste ça que ça va prendre afin de terminer au premier rang. Bref, écoute, Marc-André, on a fait le tour. Merci de t'être joint à moi, bien sûr, là, pour cette édition spéciale du podcast. Ça fait du bien là, de parler football là, comme ça au mois de mars. Il y a le repêchage de la NFL qui s'en vient dans un mois et demi. Ça va être à surveiller. Il y a le Québécois Mathieu Bergeron qui pourrait être repêché en deuxième ronde, joueur de ligne à l'attaque, l'ancien de l'Orange de Syracuse. J'ai bien hâte de voir si ça sera le cas, s'il sera repêché aussitôt.
Même en première ronde, j'ai vu dans certains mock drafts, ils se
Ouais,
glissent
fin de
à la fin de
première
la
ronde,
première ronde. Ouais,
ouais. Ouais, non, c'est
c'est
possible. Écoute,
super.
année après année, généralement, le plus grand nombre de joueurs qui sont repêchés en première ronde sont des joueurs de ligne à l'attaque, hein, la position de bloqueur en particulier. Quand un bon bloqueur, c'est rare là qu'il va se retrouver sur le marché des joueurs autonomes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de s'améliorer à cette position-là via le marché des joueurs autonomes. Alors, c'est pour ça que c'est important de les repêcher. Mathieu qui a été partant depuis sa première année à Syracuse, donc il a beaucoup d'expérience. Puis si jamais il peut pas jouer à position de bloqueur, décidément, il peut le faire à la position de garde. En tout cas, j'ai bien hâte de voir quelle équipe va le repêcher. Puis si justement, est-ce qu'il sera en mesure de se glisser dans la fin de la première ronde, ça serait le premier Québécois repêché en première ronde depuis 1996. Souviens-toi, le Chimanga Biakabutuka, parce qu'il avait...
Chimanga
Ah ouais, t'es repêché dans le top 10 par les Panthers à Caroline à l'époque. Imagine-toi, ça arrivait là aujourd'hui, Québécois, demi à l'attaque, Québécois se repêché aussitôt.
Oh
Là,
là là.
quelle histoire ça
Non.
ferait, là, ça serait vraiment incroyable. Bon, ben écoute, Marc-André, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Pour les gens qui ont téléchargé le podcast, il y a des gens justement qui m'avaient écrit via les réseaux sociaux qui se disent, hey, est-ce que vous allez faire un podcast afin de résumer la période des joueurs autonomes? J'aurais dit, soyez sans crainte, ça s'en vient, ça s'en vient. On attendait là, que ça se calme au niveau des transactions. Juste avant là, qu'on mette fin au podcast, je vais juste aller faire un tour. D'un coup, Karen Rodgers, finalement, la transaction se serait concrétisée pendant qu'on enregistrait le podcast. Laisse-moi faire un petit refresh. Ah
Non,
non, OK, je vois
je
rien.
suis allé tout à l'heure.
Oui.
Non, il n'y en avait pas.
Oui.
Devin Singletary au Texan, c'est la dernière grosse nouvelle.
Oui, j'ai vu ça, Damien Harris, l'ancien des Patriots, qui lui est rendu à Buffalo afin de le remplacer. Donc, le jeu de la chaise musicale à la position de demi à l'attaque se poursuit du côté de la NFL. Alors, écoutez, on espère que cet épisode du podcast Le Sac du Quart vous a plu et on se reparle une prochaine fois.